la voie vers laquelle on va lorsque des non-musulmans en particulier se mettent eux aussi à répandre l'idée qu'il y aurait une islamophobie. Pour moi, l'islamophobie, il n'y a pas d'islamophobie. Il y a une peur de l'islamisme et elle est parfaitement légitime. Il n'y a pas d'islamophobie.
Florence Bergeau-Blaclair est une anthropologue française chargée de recherche au CNRS. Elle est venue me parler de son plus récent livre qui s'appelle « Le frérisme et ses réseaux » publié chez Odile Jacob. On peut parler du frérisme aussi des frères musulmans. En fait, elle parle de toutes les ramifications des frères musulmans dans la politique qu'elle juge dangereuse dans la société. Oui, parler de religion, c'est un sujet très sensible et c'est un sujet extrêmement vaste. Je ne l'ai pas fait avant parce que je ne voulais pas aborder ce sujet sans le faire avec sensibilité et je pense qu'on a réussi à le faire. Je vous invite quand même à beaucoup d'ouverture. C'est pas toujours évident de se faire confronter dans ses croyances. Mais c'est une personne qui est très pragmatique et j'ai trouvé la discussion vraiment enrichissante.
Aujourd'hui, on parle d'un sujet très sensible, très tabou, c'est l'histoire de votre vie. Vous le savez, vous êtes protégée par la police en France parce que vous avez reçu des menaces de mort. Pouvez-vous expliquer un peu en quoi c'est si sensible les sujets que vous abordez?
Alors, c'est vrai que le frérisme, les frères musulmans, l'islamisme, tout ce qui est connecté à l'immigration plus ou moins récente, ça fait polémique. Ce sont des sujets brûlants d'actualité politique, etc. Donc, dès lors que vous prononcez le mot islamisme ou halal, j'ai beaucoup travaillé sur le marché halal, immédiatement vous êtes susceptible d'en dire des choses qui feront polémique. Donc, avant même qu'on lise vos travaux, qu'on vous écoute, qu'on essaye de comprendre ce que vous avez voulu démontrer, qu'on connaisse aussi votre parcours, eh bien, on vous attaque. Et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé. Alors, c'est vrai que je suis sous protection policière permanente depuis plus d'un an et demi maintenant. Suite à des menaces de mort, il y a une personne qui est en prison, d'autres procès sont en attente. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez lourd. Et la raison, c'est simplement qu'il y a eu une espèce d'emballement médiatique, à mon sens, suite à la parution de mon livre « Le frérisme et ses réseaux ». Donc, c'était en janvier 2023. Quelques ennemis, je dirais, à l'intérieur du milieu universitaire qui ont essayé de faire mousser les choses, m'accusant d'islamophobie, que je ne faisais pas un travail sérieux, que je ne faisais pas d'enquête ou des choses comme ça. C'est tellement facile à dire, beaucoup plus difficile à démontrer. Et créer ce qu'on appelle un buzz sur les réseaux sociaux et à ce moment-là c'est devenu une espèce de vague d'insultes et de calomnies, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, hein, chacun
oui.
Connaît ça. Alors, des menaces de mort, il y en a beaucoup, hein. Les miennes sont sérieuses parce qu'elles sont appuyées par un réseau que je décris dans mon livre qui est le réseau des frères musulmans, lui-même connecté à des réseaux djihadistes. On a vu le Hamas fait partie de la frérosphère et utilise donc des méthodes terroristes. Alors, tous les frères n'utilisent pas des méthodes terroristes, c'est une grande famille, la famille frériste, il y a les frères djihadistes et puis il y a les frères plus politiques comme ceux qu'on rencontre dans nos contrées occidentales, dans nos grandes villes, qui ont le même projet, hein, mais qui ont des méthodes différentes.
Je prends quelques secondes de votre temps pour vous annoncer ma grande nouvelle. Ça fait longtemps que je veux faire une conférence et ça va enfin avoir lieu. Ce sera le 13 octobre 2024 à Montréal et ça va s'appeler « Décoder la matrice et s'en libérer ». Vous pouvez acheter vos billets sur mon site web dans la section « Boutique » sur le helloveutsavoir.com. Tous les détails sont là. N'oubliez pas qu'il y a aussi une portion virtuelle, donc vous pouvez acheter vos billets en présence ou en virtuel si vous êtes trop loin. Mais je vais vous dire que si vous venez en personne, il va y avoir aussi une section cocktail après un catharsis où on va pouvoir parler et rencontrer d'autres personnes qui partagent des valeurs communes. J'ai hâte de vous rencontrer.
Ben, parlons-en du projet parce que bon, je pense que c'est la première fois que j'aborde un sujet aussi niché sur une religion. Là, on parle ici d'islam. Donc, les gens qui me suivent ne sont pas forcément très au courant du lexique qui vient avec. Je pense que c'est un lexique qui est assez précis. Est-ce qu'on peut déterminer un peu c'est quoi frérisme? Qu'est-ce que vous entendez par frérisme?
Alors, ce que j'entends par frérisme, c'est une espèce d'islamisme qui s'est déployée, développée dans les pays occidentaux et qui, à terme, veut imposer par la culture, par l'économie, par des moyens non directement politiques, une société islamique mondiale. Donc, pour situer le frérisme, donc le frérisme appartient à la famille des islamismes et l'islamisme est une des familles de l'islam, c'est-à-dire qu'on peut parfaitement être musulman sans être islamiste. Donc ça, je veux bien que ce soit très clair.
Oui, c'est surprenant d'entendre ça pour moi. C'est quoi la distinction entre les deux?
La distinction est fondamentale, hein, puisque l'islam est un grand patrimoine de l'humanité, culturel, religieux bien évidemment, qui s'est déployé dans le monde et s'est intégré, enculturé dans les différentes parties du monde avec donc des façons de pratiquer qui sont différentes d'un endroit à l'autre. L'islamisme est né au début du XXe siècle dans les sociétés qu'on dirait maintenant décolonisées mais qui étaient donc sous empire colonial, c'est-à-dire en Égypte, puis après dans toutes les sociétés arabes du monde musulman de façon plus générale qui ont été colonisées et qui ont nourri par rapport aux colons, aux colonisateurs, une haine, on peut le dire, en tout cas une colère qui s'est manifestée à travers ce qui était le plus précieux pour eux, c'est-à-dire la religion, et qui n'était pas compatible selon eux avec l'Occident, qui était leur vision théocratique du monde. Donc pour eux, la société occidentale leur apportait la démocratie, les sociétés libérales, etc. Et immédiatement, ils ont opposé à ces valeurs, à ces principes, leurs principes et leurs valeurs issues de leur lecture de l'islam. Donc, vous voyez, il est possible d'être musulman au XVe siècle dans un pays arabe, ça va donner des choses assez différentes de ce qui va se passer après lorsque l'islam se déploie sur le continent africain ou lorsqu'il va dans les Balkans, en Bosnie. Tout ça donne des façons d'être musulman qui peuvent être assez différentes, même si la source est la même. Et ça, on le sait, toutes les religions ont des options comme ça, des variations. Donc, l'islamisme, c'est la volonté, à un moment donné, d'imposer dans la société la gouvernance de la charia, c'est-à-dire de la loi islamique. Et ça, tous les musulmans ne le souhaitent pas. Donc ça, il faut que ce soit très clair, tous les musulmans ne sont pas des islamistes, mais tous les islamistes sont ou se disent musulmans.
D'accord. Donc, les islamistes sont en faveur d'appliquer la charia. C'est vraiment ça le lien.
Appliquer la charia et faire et transformer les sociétés, parce que c'est un mouvement très prosélyte, transformer toutes les sociétés humaines et donc le monde à terme en une société sous la gouvernance divine. C'est une théocratie.
Et tout ça par des frères musulmans ou ça existait déjà avant, selon vous?
Alors bien sûr, ça a existé dans le monde arabe, cette volonté d'appliquer la charia. Alors il y avait évidemment différentes interprétations des textes religieux, donc le Coran qui est la parole sacrée qui est tombée par l'intermédiaire du prophète Mohammed. Et autour du Coran, qui est vraiment la première source de droit, il y a donc la sunna, c'est-à-dire toutes les faits, les gestes du prophète, les dires du prophète rapportés par ses compagnons. Et puis ensuite par une chaîne de transmetteurs qui est arrivée donc jusqu'à aujourd'hui. Et donc toute cette littérature qui est très très importante, avec ce sont ce qu'on appelle la sunna, donc les hadiths. Et ces hadiths du prophète, il y en a qui sont plus ou moins reconnus, plus ou moins sérieux, plus ou moins authentiques. Et c'est donc sur cette littérature, Coran, Sunna, et puis la jurisprudence aussi qui en a émané, que s'appuient donc les oulémas, c'est-à-dire les savants et les imams pour prêcher, pour interpréter les actes de la vie quotidienne et conseiller leurs ouailles. Donc tout cet ensemble, bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord avec la même interprétation, peuvent être les mêmes, on peut les interpréter différemment. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas interpréter à l'infini. Il y a quand même des choses qui sont assez claires. Par exemple, les 5 piliers de l'islam, tout le monde, tous les musulmans s'accordent sur les 5 piliers, c'est-à-dire les prières, le jeûne, la zakat, c'est-à-dire le fait de contribuer au culte, le hajj, c'est-à-dire le pèlerinage, le jeûne du ramadan, tous les musulmans s'accordent sur ces 5 piliers, mais le reste est très très important, et là il y a des différences. Après, il y a des formules, des options islamiques qui s'adaptent mieux à certaines structures sociales qu'à d'autres. Dans la modernité, c'est vrai que la lecture littéraliste, donc littérale du texte religieux et de la sunna, a été préférée et de plus en plus hégémonique. C'est-à-dire qu'il y avait dans les sociétés des parents, qui ont immigré au Québec ou en France, des formes plus poétiques, je dirais, de la religion, qui étaient liées aux lieux de mémoire qui sont dans les pays, qui existent dans les pays musulmans, avec le culte des saints, etc. Et les littéralistes, qui eux ne se basent que sur les textes, et strictement sur les textes, et pas sur les traditions qui se sont perpétuées, ont essayé d'éliminer en fait ces formes plus poétiques, plus spirituelles que celles qui aujourd'hui dominent dans nos sociétés, qui sont des formes littéralistes et très légalistes de la religion.
Vous dites que ces formes-là dominent dans la société. Il me semble que c'est pas ce que je vois autour de moi. Je connais pas vraiment de musulmans qui sont pas nuancés ou en fait plutôt flexibles dans leur application de leur interprétation des écrits sacrés. Est-ce que selon vous, c'est sûr que vous êtes en France, puis je pense qu'il y a probablement une réalité différente en France, mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment dominant? Est-ce qu'il y a plus de gens, de musulmans qui sont pour la charia que de musulmans qui sont plus dans le soufisme ou dans quelque chose de plus flexible?
Alors, c'est difficile de le savoir. Vous pouvez être assez relâché sur la pratique, de temps en temps faire le ramadan ou faire les prières, mais pas toujours, mais avoir comme idéal de le faire, c'est-à-dire de considérer que votre pratique est insuffisante. Dans ce cas-là, on ne peut pas dire que vous portez une parole modérée ou d'un islam à la carte. Vous portez une parole d'un islam littéraliste et rigoriste, mais vous admettez que pour vous-même, vous n'êtes pas encore assez pieux, vous voyez ? Donc, ça ne veut rien dire. Même si les musulmans, dans leur majorité, ne respectent pas les 5 piliers de l'islam, c'est-à-dire les 5 prières par jour, hein, c'est très contraignant, par exemple, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas ça comme idéal et que s'ils le pouvaient, ils ne le feraient pas. Voyez, donc c'est ça qu'il faut regarder. Si par contre vous rencontrez autour de vous des musulmans assez relâchés qui vous disent moi j'ai pas du tout envie de faire les 5 prières, moi je ne retiens que 3 piliers de l'islam parce que c'est les 3 qui m'intéressent, à mon avis vous ne trouverez pas beaucoup de musulmans qui raisonnent de cette façon.
C'est intéressant. Et donc, dans votre livre, quand on le lit, ce qu'on ressent, en tout cas, ce que j'ai perçu comme message, et j'ai l'impression que c'est pour ça que vous avez eu des menaces et que ça a eu une réaction forte, on peut sentir qu'on perçoit les musulmans comme une menace ou comme un danger potentiel aux droits fondamentaux humains, parce que la charia peut être incompatible avec les droits humains. Est-ce que c'était le but de votre livre de sonner une sorte d'alarme par rapport à ce que vous percevez?
Mais c'était surtout d'expliquer pourquoi je voulais sonner cette alarme. je voulais, c'est vrai qu'à la fin de mon livre, en conclusion, et c'est pas souvent le cas des chercheurs, des académiques, je donne quelques pistes pour en sortir finalement de cette hégémonie du frérisme. Mais je le fais en conclusion après avoir fait une démonstration, parce que tout mon livre est une démonstration de la façon dont ce système islam, comme je l'appelle, fonctionne, avec cette particularité que justement je distingue bien de l'islam. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre le frérisme. Mm-hmm. Donc, il y a une volonté d'alerter, parce qu'il est évident que la charia n'est pas compatible avec les droits de l'homme.
Pouvez-vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la charia, en quoi, c'est quoi la charia? Parce que quand on tape dans Google, c'est très, très vague. Où elle est incompatible avec les droits fondamentaux?
C'est la loi islamique. C'est-à-dire que c'est Dieu qui gouverne. La loi est inscrite dans le Coran et dans la Sunna. Donc, évidemment, pour tous ceux qui ne sont pas musulmans, ça ne fait pas sens. La charia ne peut pas s'appliquer. Déjà, par principe, si ce ne sont pas les droits de l'homme, ce sont les droits de Dieu. Et les droits de l'homme, ça n'est pas pareil que les droits de Dieu. Donc, on ne va pas pouvoir s'entendre avec une catégorie de... Si on est démocrate, hein, on ne peut pas s'entendre avec une catégorie de population comme les frères qui veulent imposer la charia, c'est-à-dire soumettre les droits de l'homme aux droits de Dieu. Ça n'est évidemment pas compatible. Alors, l'exemple qui vient à tous en tête, c'est bien évidemment le voilement des femmes.
Ouais.
Si on applique la charia, eh bien, il faudra voiler toutes les femmes. Il faudra que je me présente devant vous avec un hijab. Il faudra que vous m'écoutiez avec votre hijab si vous êtes dans un espace public. Donc, évidemment, toute contestation sera considérée comme une contestation vis-à-vis de Dieu. Il pourrait vous valoir une punition sévère. Donc, évidemment, cette loi-là n'est pas compatible. Alors, certains me diront, mais les lois, ça peut s'assouplir. Non, justement, la charia, on n'a pas le droit de changer la parole divine. Donc, il y a des choses qui ne peuvent pas se négocier. Par ailleurs, vous savez peut-être qu'une déclaration alternative à la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce qu'on appelle la DUDH, une déclaration alternative islamique, a été proposée donc, dès les années 1980. C'était d'ailleurs les frères qui l'avaient initiée. Donc, une déclaration des droits de l'homme en islam. Pas une déclaration des droits de l'homme pour les musulmans, mais une déclaration des droits de l'homme une fois que tous les humains en fait se seront convertis à l'islam. Donc cette déclaration elle existe, ça s'appelle la déclaration du Caire, tout le monde peut la lire, et elle soumet donc les humains à la loi de Dieu. Il y a certains principes qui ne peuvent pas être négociés puisque c'est Dieu qui les impose, comme l'inégalité homme-femme, hein, mais la complémentarité. Donc ils vont parler de complémentarité et non d'égalité, ce qui est évidemment pour quelqu'un qui soutient les droits de l'homme tout à fait impensable.
Effectivement. Et vous en parlez dans votre livre, pour ceux qui auraient envie de se le procurer, on peut retrouver cette charte-là dans votre livre. Le hijab a été ici au Québec, et j'imagine que ça a été une discussion très, très coriace aussi en France. En 2013, peut-être que vous en avez entendu parler, mais on a fait ici ce qu'on appelait la charte des valeurs. Et on a essayé de déterminer c'était quoi être Québécois pour ceux qui veulent immigrer ici. Et il y avait toujours, bien sûr, le principe de la laïcité et de sécularisme qu'on applique de plus en plus dans les pays qui sont très occidentaux. En tout cas, ici, ça a été très mal reçu. Et là, on s'est mis à voir beaucoup le concept de sexisme, d'islamophobie. Et encore à ce jour, je pense que c'est un sujet qui est très, très, très tabou, parler du hijab, comme les Olympiques avaient interdit les femmes d'avoir le hijab, et ça crée un tollé à l'international. Mais c'est pas vraiment... Quand j'en parle avec des musulmans, parce que j'ai beaucoup voyagé, j'étais en Égypte, et j'ai parlé avec des femmes qui vivaient au Caire, puis ils portaient pas le voile, Et je leur ai posé la question, comment ça que vous, vous le portez pas? Et finalement, quand elles me parlaient de leur perception des écrits, parce que je pense que dans l'islam, en tout cas les musulmans, c'est propre à chacun, il fait son interprétation, il n'y a pas le pape pour dire c'est ça qui est ça, les homosexuels, finalement, c'est bien, ou on n'a pas cette notion-là. Ces femmes-là considéraient que ce n'était pas vraiment dit si clairement que ça dans le Coran ou dans les écrits, et que c'était à elles de décider c'était quoi leur rapport avec Dieu. Donc, je serais curieuse de savoir un peu qu'est-ce que vous pensez de ces notions-là de sexisme quand on embarque ou d'islamophobie, quand on se met à parler du hijab. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
Alors, vous avez dit beaucoup de choses là.
Oui.
D'abord, effectivement, vous trouvez un certain nombre de femmes, et d'ailleurs plus souvent dans le monde musulman aujourd'hui que parmi les minorités européennes ou américaines, qui vous expliquent que finalement elles ne voient pas du tout dans le Coran l'idée que le voile soit obligatoire. Mais ça, c'est une position qui est devenue parfaitement minoritaire, qui était majoritaire dans les années 90, moi je m'en souviens, et qui est devenue donc 30 ans plus tard parfaitement minoritaire, mais qui existe et s'exprime dans le monde musulman. Mmh. Donc, ça, c'est la première chose. La façon dont les islamistes et les frères musulmans s'y sont pris pour imposer l'idée que le voile est obligatoire, c'est d'abord de l'affirmer dans toutes les mosquées, dans toutes les réunions religieuses aux enfants de l'immigration qui avaient un héritage religieux relativement faible. Les parents n'avaient pas vraiment transmis la religion parce que, comme je vous l'expliquais, elle était plutôt de nature orale que écrite, donc il n'y avait pas la transmission avec dans les lieux, les lieux de prière traditionnels, puisqu'il n'y avait pas de mosquées ou ces lieux ancestraux en Europe. Et donc, ce sont les frères qui sont arrivés avec leur littéralisme en disant « Mais regardez, c'est marqué dans le texte. » Et se sont adressés aux enfants issus de l'immigration qui avaient perdu la mémoire d'une certaine manière. Et en leur expliquant, voilà, ce voile est obligatoire. Donc, mes frères sont arrivés avec ce discours très, 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 très strict. Et quand ils rencontraient une opposition à cela, c'est-à-dire des musulmans qui disaient, mais moi, je ne le vois pas dans le Coran, etc., eh bien, et qui étaient repris souvent par les non-musulmans, mais enfin, où est-ce que vous voyez la réponse immédiate a été de dire, vous êtes islamophobe. En fait, vous n'aimez pas, vous ne voulez pas lire ce que vous devez lire, ce qui est à lire, que le Coran dit ou la Sunna dit explicitement. C'est en réalité parce que vous ne pouvez pas supporter l'islam et que vous êtes islamophobe. Mm-hmm. Ensuite, la phobie, c'est devenu une haine. Hein, on l'a vu depuis les années 2016-17, tout ce qui est phobique, tout ce qui était phobique est devenu une haine aujourd'hui. Donc, on dira la haine de l'islam, etc. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec une interprétation religieuse, même si vous êtes musulman, eh bien vous devenez un islamophobe. Donc c'était une formidable opportunité pour les groupes islamistes d'imposer leur vision des choses en disant que tout ce qui ne plaisait pas, tout ce qui n'était pas compatible, selon leur critique, avec les droits de l'homme, était en réalité de la haine, de la phobie, de la peur, puis de la haine. Et donc aujourd'hui, si vous dites ce que je dis là, eh bien, vous êtes immédiatement considéré comme islamophobe et vous le savez. Vous savez ce qui peut arriver à des enseignants qui sont taxés d'islamophobie. Vous l'avez vu en France avec Samuel Paty et avec Dominique Bernard. Eh bien, ils peuvent être tués. Donc, vous voyez un peu la pression considérable de l'islamisme sur l'ensemble des musulmans, puisque c'est d'abord les musulmans hein, qui souffrent de l'islamisme, et la voie vers laquelle on va lorsque des non-musulmans en particulier se mettent eux aussi à répandre l'idée qu'il y aurait une islamophobie. Pour moi, l'islamophobie, il n'y a pas d'islamophobie. Il y a une peur de l'islamisme, et elle est parfaitement légitime, mais il n'y a pas d'islamophobie.
N'hésitez pas à partager, mettre un pouce par en haut et surtout rejoignez-moi tout de suite dans mon infolettre sur le helloveutsavoir.com pour ne plus rien manquer des contenus que je mets en ligne. Vous pouvez aussi rejoindre ma communauté VIP par un abonnement mensuel ou annuel. Vous aurez accès à des contenus exclusifs. Et bien sûr, vous pouvez me joindre sur toutes les autres plateformes comme Facebook, YouTube, X et Instagram.
Puis on va me dire, oui, mais il y a du racisme envers les musulmans. Absolument, il y a du racisme dans nos sociétés et pas que envers les musulmans.
Oui, donc vous faites une distinction entre l'islamophobie et le racisme. Et comme vous n'êtes pas la première, j'entends souvent même des musulmans dire que le concept d'islamophobie est extrêmement vague et difficile à définir. Vous parlez dans votre livre d'un principe aussi de victimisation que vous associez avec l'islamophobie. Vous parlez d'un agenda de victimisation. Pouvez-vous expliquer qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ben, j'en ai un petit peu parlé, je vais le détailler.
Donc, oui.
L'islamophobie, ça sert donc à accuser la personne qui serait assez réticente à l'idée de se voir imposer un islamisme donc qui dirigerait sa vie, à se poser en victime, donc à être écoutée, parce que dans nos sociétés, si vous êtes une victime, alors on court, vous demandez ce qui vous arrive, on essaye de vous soigner, même si vous prétendez être une victime, parce qu'au fond, vous ne l'êtes pas. Ça sert aussi à rééduquer la société occidentale. Par exemple, vous avez chaque année un certain nombre de publications, de rapports sur l'islamophobie qui sont faits par des structures fréristes ou associées aux frères, qui donc se victimisent et qui fabriquent d'une certaine manière cette peur supposée de l'islam, en disant voilà, cet enfant qui portait le hijab n'a pas été accepté à l'école, donc c'est de l'islamophobie. Non, en réalité, c'est l'application d'une loi en France qui fait qu'on estime que pour un enfant, aller à l'école avec un hijab, ça n'est pas normal, c'est une forme de conditionnement et qu'il faut empêcher cela. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas qu'elle soit musulmane, pas du tout, mais que cette pratique-là va orienter sa vie d'une telle manière que ça n'est pas, c'est pas un libre choix, ça n'est pas de la liberté. Par contre, après 18 ans, il n'y a plus de loi qui s'impose contre le voile. Donc, faire passer ces éléments de protection de la société pour des mesures islamophobes, c'est la spécialité de ces travaux sur l'islamophobie. Donc, si vous voulez, par exemple, imposer vos prières oui. dans l'espace où vous travaillez, ça va être considéré comme de l'islamophobie, alors que c'est une rupture dans l'organisation temporelle, que ça ne s'est jamais fait jusqu'avant et qu'aucun musulman ne s'en est plaint, c'est devenu bon, un fait islamophobe. Donc vous avez des chercheurs qui aujourd'hui, enfin des pseudo-chercheurs, c'est souvent des militants, qui vont remettre des rapports qui vont être compilés, financés par l'Union européenne, par un certain nombre de pays, apparaître comme des rapports sérieux par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, et ensuite vous trouvez donc à la fin de ces rapports eh bien, des mesures à prendre. Et ces mesures à prendre, c'est justement lutter contre ces formes d'islamophobie qui consistent à rééduquer notre regard, c'est-à-dire à nous expliquer qu'on a un problème, ce n'est pas le hijab qui pose problème, c'est nous qui avons un problème avec le hijab. Ce n'est pas les cinq prières dans l'entreprise, c'est nous qui avons un problème, vous voyez ?
Oui.
Donc, il faut prendre des mesures pour que nous n'ayons plus de problèmes avec. C'est comme ça qu'on rééduque une société.
Bien, c'est intéressant ce que vous apportez parce que justement, je m'en allais vous répondre, puis ça va sonner comme si j'étais en train de faire exactement ce que vous décrivez, mais j'ai des amis musulmans, donc j'essaie de rester ouverte et tout ça. Donc, j'ai eu une discussion avec une amie qui m'est très chère, qui est musulmane, et j'ai parlé d'une expérience que j'ai vécue au Maroc, où là-bas, les femmes portent le niqab. Et, pas toutes, mais en tout cas, j'étais au restaurant, puis il y en avait une, donc, qui était avec ses autres amis, et une seule avait le niqab. Et donc, pour manger, c'était très compliqué, puis je l'observais avec un regard, bien entendu, d'une femme qui vient d'un monde où ce genre de choses-là ne se fait pas. Il fallait qu'elle prenne la nourriture avec sa main, qu'elle la passe en dessous de sa robe et qu'elle la remonte. Puis je me disais, mon Dieu, ça a l'air vraiment... à quel point ça te réduit dans ta liberté, dans ton droit d'exister, et j'en parlais à mon amie, puis elle m'a répondu, mais c'est parce que tu le vois avec un regard d'occidental, parce que non, cette femme-là, elle est heureuse dans ce choix-là qu'elle a fait. Pour elle, ça la rapproche de Dieu et tout ça. Puis elle disait, c'est dommage que tu penses comme ça. C'est depuis, elle m'a parlé de la charte des valeurs. Puis elle disait, on n'avait pas ce genre de jugement-là avant. Et là, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui posent ce regard-là. Puis je me suis sentie étroite d'esprit. Et je me suis dit, pourtant, non. Et là, vous parlez de cette loi-là en France qui existe où on dit que les petites filles ne peuvent pas porter de voile jusqu'à ce qu'elles aient 18 ans. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, dans notre conception de ce qu'est la liberté, ça va à l'encontre de la liberté. Et c'est là que je me dis qu'il y a une incompatibilité. Je me demande si on a une voie, une porte de sortie pour être capable de rallier ça, de vraiment amener certaines personnes à comprendre, pour nous, c'est liberticide. C'est comme si ce concept-là, il n'existe pas. Ça devient juste, ben, on ne comprend pas, puis donc on est islamophobe.
Oui, ben oui, c'est. Alors, ce qui est intéressant dans votre témoignage, c'est votre amie qui vous dit, mais enfin, elle se rapproche de Dieu, c'est sa façon d'être, etc. Comme si, finalement, la religion était un phénomène individuel, que rien n'avait été imposé, qu'elle ne risquait pas, par exemple, des sanctions si elle ne faisait pas. Après tout, vous ne connaissez pas son entourage. Voilà, comme si elle avait décidé d'être obligée de manger comme ça en se cachant, même aux animaux, hein, on ne leur impose pas de choses pareilles. C'est d'une arrogance, c'est un paternalisme incroyable. Et moi, j'ai des amis musulmanes qui se révoltent contre ces paroles de non-musulmans qui les considèrent comme des sous-humains, parce que c'est une façon, c'est d'un mépris total de penser qu'un individu puisse être guidé, puisse accomplir des pratiques qui vont tellement contre son intérêt et que c'est sa façon à lui de penser, c'est qu'il est câblé comme ça dans son cerveau. Mm-hmm. C'est une arrogance incroyable. Ces gens font beaucoup de mal, ils sont très nombreux malheureusement à la gauche du spectre politique. Ce sont des gens qui ne connaissent absolument pas de quoi ils parlent, mais qui se permettent de donner leur opinion sur ce qu'ils voient sans connaître. Et ils font beaucoup de mal. Et c'est étonnant que nous ne sachions pas répondre. Moi, c'est ça qui m'intéresse, qui m'a intéressé le plus, c'est comment se fait-il que ceux qui voient bien qu'il y a un problème dans ce type de raisonnement ne savent pas répondre à ça et se culpabilisent, finalement, arrivent à se culpabiliser eux-mêmes de ne pas reconnaître la différence. Mais on ne parle pas de ça. Si... Vous voyez quelqu'un qui a une chaîne et qui est trimballé comme un chien par un autre humain, vous n'allez pas dire « écoutez, c'est sa culture ». Donc, c'est un peu pareil. Mm-hmm. Angela, malheureusement, n'est pas si éloignée.
Mais je pense que le problème, c'est justement parce que si on voit quelqu'un en chaîne, comme vous dites, il n'y a pas le concept de Dieu. Et puis, quand on tombe dans Dieu, on tombe dans la religion, ben on veut respecter les dogmes des autres. Je pense que c'est la même chose pour toutes les religions. Et là, on se dit, ben, il y a peut-être une notion que je n'ai pas compris. C'est comme si ça nous amène là.
Vous n'allez évidemment pas empêcher cette femme de se comporter comme ça, mais vous pouvez le désapprouver personnellement et publiquement. Vous avez le droit de le faire dans notre société de libre expression. Et quelqu'un qui tenterait de vous culpabiliser, c'est ça, à mon avis, qui est beaucoup plus problématique.
Mm-hmm. Et c'est selon vous... dans la mouvance ou dans l'agenda du frérisme, de culpabiliser ceux qui remettent ça en question. C'est l'agenda.
En tout cas, ils s'en servent. Ouais. Là, c'est difficile parce que les frères ont un agenda religieux, hein, ils sont assez conformes à leur texte, mais ce sont des opportunistes. C'est-à-dire que s'ils voient qu'autour d'eux, vous avez ce qu'on appelle des alliés utiles ou des idiots utiles qui vont dans leur sens, eh bien évidemment, ils vont exagérer ce mouvement, ils vont les féliciter pour leur aide. C'est toute cette, ce qu'on appelle la sphère islamo-gauchiste. Évidemment, les frères ont très vite vu que c'était dans leur intérêt d'aller dans ce sens-là. Même si ces islamo-gauchistes défendent par ailleurs le transactivisme, y compris chez les mineurs, etc., du moment que ça fait leurs affaires, ils le facilitent. Ils disent d'ailleurs « Dieu nous facilite ». Et c'est vrai que quand on voit le niveau de bêtise parfois des alliés de l'islamisme, on peut se demander s'il n'y a pas une grande main invisible. Bon, plus sérieusement, les frères sont des pragmatiques. Ce sont des opportunistes et des pragmatiques. Si ça fait leurs affaires... de toute façon, il faut aller vers ce que Dieu a demandé. Après, ils se débarrasseront de ces gauchistes qui les encombrent, comme ça s'est passé en Iran.
Donc, on peut dire qu'on a vu le plan se dérouler en Iran. Ça donne un aperçu de ce qu'ils désirent faire.
Ça donne un aperçu tout à fait concret et fiable de ce qui arriverait à une société qui s'islamise, comme par exemple à Bruxelles. Bruxelles est une ville qui s'islamise véritablement et oui. qui, à un moment donné, va basculer. Parce qu'il y a un moment où la culture et l'économie, ça ne suffit plus. L'influence culturelle, l'influence économique, par le halal, le hijab running, des choses comme ça, ça ne suffit plus. Et donc, il y a un passage au politique, et ce passage au politique finit par faire basculer dans un autre régime.
Bien, on peut en parler un peu de Bruxelles parce que c'est, je pense que c'est un endroit dans le monde qui est en train de s'islamiser beaucoup, comme vous l'avez dit. Je pense que c'est la majorité, ça se peut-tu en ce moment, des habitants qui sont musulmans, il me semble que c'est 60%, je ne suis plus trop certaine, mais en tout cas, au niveau politique, c'est en train de... Ça s'infiltre dans le monde politique, ce serait ça que j'aimerais vous entendre dire, où on peut prendre un petit peu, avoir un aperçu de ce qui attend la France si ça se continue dans cette mouvance-là, parce qu'au niveau politique, il y a vraiment des choses qui sont en train de changer en Belgique.
Alors, vous avez la Belgique, vous avez trois parties, hein. Vous avez la Flandre, Bruxelles-Capitale et la Wallonie. Alors ici, si on se concentre sur Bruxelles-Capitale, qui est partagée entre les francophones et les néerlandophones, dans ce Bruxelles-Capitale, vous avez plusieurs communes. Et dans certaines communes, comme Molenbeek, qui est la plus connue, vous avez effectivement... pas loin ou parfois plus d'une majorité de personnes issues de l'immigration musulmane. Mmh. Bon, évidemment, ça pèse énormément, mais vous savez, il suffit de 20-25% d'une population pour faire basculer un scrutin. Il n'est pas nécessaire d'être majoritaire. Si vous savez jouer entre la gauche et la droite, vous savez opportunément vous placer, eh bien, vous emportez la gauche ou vous emportez la droite avec vous, mais vous faites majorité. C'est ce qui s'est passé avec les musulmans qui ont été assez bien accueillis en Belgique, qui on ne va pas trouver, par exemple, à Bruxelles, des grands ensembles comme autour de Paris, où effectivement, il ne fait pas bon vivre à Bruxelles. Beaucoup de gens issus de l'immigration sont propriétaires de leurs maisons en centre-ville et des maisons qui sont encore en très bon état, donc dans des beaux quartiers. Donc la victimisation, ça ne devrait pas marcher. Mais pourtant, ça marche, puisqu'il y a cette question d'islamophobie. Mais je reviens là parce que ce qui se passe aujourd'hui à Bruxelles, c'est l'infiltration dans tous les partis politiques, et ça, Fadila Maroufi, qui est une chercheuse qui travaille, la directrice du Café Laïque Bruxelles, connaît bien ce problème-là, et je vous conseille de la lire et de l'interviewer. Elle vous expliquerait que finalement, tous les partis politiques aujourd'hui sont infiltrés à plus ou moins haut degré par des éléments fréristes, puisque ça fait partie, et c'était ça l'objectif de mon livre, c'était de dire, mais toutes ces petites choses éparpillées, que ce soit le voile à l'école, le halal, les affaires de hijab running, tous les problèmes de prière aussi dans les entreprises, etc., tout ça n'est pas fortuit. Il y a volonté de la part de certains groupes de faire pression sur la société pour imposer un modèle sociétal islamique. Et mon livre, c'était ça, c'est d'en faire la démonstration. C'est-à-dire tout ça forme système. Ça ne veut pas dire qu'il y a un grand complot de quelques individus qui voudraient... il y a quelque chose de commun entre les musulmans, c'est le Coran et la Sunna qui font que c'est assez bien, si vous avez quelques éléments pour essayer de ramener en fait au littéralisme de la religion, eh bien sans connaître toutes ces populations, vous arrivez quand même à les guider vers le même objectif. Si vous avez en face des partis politiques qui jouent ce jeu-là par électoralisme du communautarisme musulman, eh bien, on finit par avoir des forces religieuses qui sont assez puissantes et qui ont un véritable background populaire. Ça va loin dans la population. Mais dans mon livre, je montre tous les éléments qu'il faut pour que ça produise cet effet-là.
Mais absolument, mais je recommande d'ailleurs votre livre à tout le monde qui pourrait, je vais le renommer. Encore, j'ai vu qu'il était en vente au Québec. Des fois, ça arrive que ça prend du temps, mais je renomme, ça s'appelle Le Frérisme et ses réseaux. Vous parlez aussi, vous avez écrit d'autres livres sur le halal. Vous en avez parlé à quelques reprises dans notre entrevue. Il y a quelque chose qui est en train de... On m'en parle souvent depuis 2 ans. Je ne sais pas si c'est très implanté en France, mais ça s'en vient assez fort au Canada. C'est ce qu'on appelle les hypothèques halal. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Savez-vous un peu
ce que c'est? Ce n'est pas ce champ-là particulier islamique, mais ça fait très, très longtemps que ça existe.
Le marché halal, finalement, voilà. Vous, c'est de ça que vous parlez.
Voilà, sur le marché halal, effectivement, absolument tout ce qui est commercialisable a aujourd'hui sa version halal, que ce soit dans le secteur alimentaire, vestimentaire, médical, pharmaceutique, etc. Tout peut avoir sa version halal et c'est quelque chose qui pèse, je crois, 3 000 milliards de dollars par an dans le monde. Hein. C'est le chiffre d'affaires calculé par les spécialistes. C'est absolument colossal. Ça marche très bien, évidemment, dans les pays musulmans et en particulier dans les pays asiatiques. Mais ça vient en force dans nos pays, bien sûr. Ça fait très longtemps que le halal n'est plus seulement la boucherie.
Avant, c'était seulement la boucherie, le halal, on est d'accord.
Ça a commencé par la boucherie. C'est une invention relativement récente des années 1970.
Ça n'existait pas avant, le halal ?
Avant, puisque tous les musulmans étant en pays musulman, ils ne se préoccupaient pas de savoir ce qui était licite ou non pour eux, puisque halal, ça veut dire licite. Donc, pour eux, tout ce qu'ils fabriquaient, c'était licite. Donc, à partir du moment où ils s'expatrient, ils font attention à un certain nombre de choses. Alors, d'abord, c'est la viande, et puis après, ben, il vient se rajouter un certain nombre d'éléments. Attention, ça, vous ne devez pas, ça, vous ne devez pas, etc. Et donc, évidemment, les frères ont trouvé judicieux de leur interdire à peu près tout ce qu'ils pouvaient manger, puisque ça ne concerne pas que la viande, mais dans toute l'alimentation ou se soigner, etc., pour en proposer chaque fois des versions halal qui, évidemment, rapportent. Hein. Il y a un intérêt de diffusion de la norme, mais aussi un intérêt économique. Donc, tout ça, je le décris dans mon livre « Le marché halal ou l'invention d'une tradition » qui est sorti en 2017, je crois, qui n'a pas fait grand bruit quand il est sorti. Enfin, il était médiatisé par les médias de gauche qui voyaient un message de lutte contre le capitalisme. En réalité, c'était à la fois un livre qui dénonçait le capitalisme et le fondamentalisme qui s'entendent parfaitement pour diriger ce marché, ou en tout cas pour le diffuser, et avec une capacité de création, d'invention qui est incroyable. Le frérisme, c'est le résultat, mon dernier ouvrage, c'est le résultat de cette réflexion que j'ai menée pour comprendre les origines et le développement du marché halal comme norme. Hein. C'est pas la boucherie seulement, c'est la norme qui s'impose, la norme frériste qui s'impose. Alors le frérisme se vend aussi, il a été traduit en danois, où il a suscité aussi un débat assez important, c'est ce que mes collègues danois me rapportent. Il va sortir en Suède et il va sortir assez prochainement, donc en janvier normalement, en Allemagne. Donc, j'ai encore du mal à le faire sortir en anglais parce que vous savez que les Britanniques sont pris dans de gros soucis, de gros problèmes avec la population musulmane, des manifestations, des espèces de milices dans les rues, une forte opposition de la population qui ne se laisse plus faire, qui est ainsi taxée d'extrême droite. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de l'extrême droite, mais à mon avis, il n'y a pas que ça. Et donc, la version anglaise de ce livre a encore un peu de mal parce que les gens ont peur. Et c'est dommage parce que je crois qu'il y a dans mon livre de quoi expliquer ce qui se passe en ce moment et pourquoi les gens qui sont, à mon avis, beaucoup plus conscients que leurs élites, que leurs élus, ils voient des choses. Moi, je le vois quand je fais signer mes livres, quand je fais des conférences, les gens ont vu énormément de choses. Mais on leur dit de chaque fois qu'ils sont islamophobes, qu'ils sont racistes, qu'ils sont... Donc, du coup, ils ferment les yeux ou ils s'obligent à fermer les yeux, sauf ceux qui n'en peuvent plus et qui crient dans les rues.
Ben, parlons-en de ceux qui crient dans les rues, parce que vous avez parlé un peu de ce qui se passe en Grande-Bretagne. Moi, j'ai suivi ça un peu sur X, mais on en parle très peu, à mon avis, alors que ça semble assez majeur. Et le conflit part un peu de ce je pense que c'est un trop-plein. Bon, c'est comme un conflit entre les musulmans et les non-musulmans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui se passe? Comment ça a pu éclater comme ça?
Alors, ben, il y a eu ces horribles affaires de Pakistanais, donc issus effectivement du monde musulman, et de viols de milliers d'enfants, hein, de prostitution, etc., de prostitution forcée, bien sûr, d'enfants blancs, donc qui étaient sélectionnés parce qu'ils étaient blancs pour alimenter des réseaux de prostitution en direction des populations musulmanes ou autres, par donc des réseaux racistes. Des réseaux qui à la fois étaient de prostitution et racistes, puisqu'ils...
Racistes envers les Blancs, vous diriez?
Envers les Blancs, bien sûr, puisqu'il s'agissait de trouver des enfants blancs. Hein, c'est pas n'importe qui était choisi, c'est pas les enfants de la communauté, hein, qu'on va prostituer, ce sont les enfants des autres, des Blancs, de la majorité. Et ça n'a jamais été traité correctement par les autorités britanniques. La presse, à scandale, en a parlé, mais ça n'a pas été traité correctement. Mais ça, les Anglais, ils l'ont gardé en mémoire. Ils l'ont toujours en mémoire. Et donc, chaque fois que ces scandales éclatent, ça donne une pression formidable. Et là, avec l'assassinat de ces petites filles, je ne sais plus quand c'était exactement, je crois au mois de juillet, je ne sais plus, oui. Quand, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et là encore, les médias britanniques ont dit, ben voilà, c'est l'extrême droite qui est dans les rues, qui en profite, qui profite de ce malheureux crime pour manifester son islamophobie. Alors c'est vrai que dans ce cas-là, je crois que l'auteur, dont on n'avait pas dit le nom, donc il y avait des rumeurs qui circulaient, n'était pas musulman. Donc, c'est toujours pas très, très clair, cette histoire-là. Mais les gens ont commencé à attaquer des mosquées parce que pour eux, le problème était musulman. Donc, on voit bien que quand on ne veut pas nommer les choses, et le problème aussi de l'immigration massive qui aggrave considérablement les problèmes, quand on ne veut pas nommer les choses, eh bien, on obtient ces... Mais maintenant... Est-ce que c'est une guerre des non-musulmans contre les musulmans? Eh bien, oui, ça le devient. D'une part, parce que, comme je disais, ça n'a pas été traité, mais aussi parce que des milices de musulmans ont commencé à aller dans les rues, à attaquer des gens, et que la puissance britannique a commencé aussi à criminaliser ceux qui parlaient sur Twitter ou sur les réseaux sociaux de ce qui se passait, donc avec plusieurs mois de prison. Parce que justement, il fallait éviter la haine envers les races et les religions. Donc, tout ça a contribué à en faire un problème musulman contre non-musulman.
Oui, je comprends. Et il y a toute la loi en Angleterre aussi où on peut être arrêté et mis en prison pour un tweet, là, pour avoir écrit quelque chose sur les réseaux sociaux qui est jugé comme haineux. Ça ouvre la porte à... en tout cas, ça ferme beaucoup la liberté d'expression. Une chance.
Beaucoup exprimé sur ce sujet, et c'est lui qui a attiré l'attention de cette dérive.
Qui c'est? J'ai manqué le début.
Elon Musk. Musk a beaucoup attiré l'attention sur ce problème, qui est très étonnant de la part d'un pays libéral, comme tout le monde anglo-saxon, que ce soit les États-Unis ou la Grande-Bretagne, sont plutôt très attachés à la liberté d'expression, et tout d'un coup. En Grande-Bretagne, ça ne fonctionne plus. Donc, c'est une société qui va très mal.
Ben, le Canada aussi, on voit notre liberté d'expression très mise à mal depuis 4 ans. Beaucoup de censure. Donc, ça inquiète de se dire que ça peut s'en venir. Justement, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé une vidéo. Peut-être que vous l'avez vu passer. C'est un vox pop. C'est au Canada. C'est un musulman qui est interviewé. Puis, il dit à la personne qui lui parle, « Vous ne faites pas d'enfants. Nous, bientôt, on va être plus nombreux que vous. On va vous surpasser en nombre démographiquement. C'est juste un fait. » Je pense qu'il dit d'ici 2060.
Je ne l'ai pas précisé, mais ça fait 30 ans que je travaille sur ce sujet. J'ai toujours entendu ça. Je veux dire, l'arme démographique, c'est beaucoup plus que les islamistes, d'ailleurs. Hein. C'est la plupart des musulmans pensent qu'un jour, la terre deviendra musulmane. Alors, il y a ceux qui veulent forcer les choses, et donc je les appelle les islamistes parce qu'ils ont un programme pour cela, mais chez beaucoup de musulmans, il y a cet espoir-là. Mais de la même manière que chez certains catholiques, il y a l'espoir que l'évangélisation va, va se poursuivre. Donc, il y a quand même une volonté, il y a une arme démographique, ça, c'est certain.
Mm-hmm. Et puis, c'est inquiétant parce que c'est vrai qu'on ne se reproduit pas beaucoup, en tout cas au Canada. Mais vous venez de parler des catholiques, je trouve ça important de faire un peu l'avocat du diable ou du moins de faire le parallèle avec les autres religions parce que c'est sûr, moi, mon bagage à moi est plus catholique. Je viens d'une culture, je dirais, qui est catholique, pas forcément tant que ça mon éducation, mais mes parallèles, j'ai tendance à les faire avec ça. Puis je me disais, en lisant votre livre, ben il y a des catholiques qui vont appliquer au pied de la lettre les interprétations qu'ils font, exemple de l'Ancien Testament qui vient clairement d'une autre époque où Dieu demandait de faire des sacrifices ou de même sacrifier son fils à un certain moment. Bon, finalement, il ne le fait pas, mais quand même.
Ça ne court pas les rues.
Non.
On dit quand même que des catholiques qui veulent recommencer les sacrifices, ça ne court pas les rues. Tandis qu'on trouve quand même beaucoup de musulmans qui pensent que finalement la charia pourrait s'appliquer pour le voleur, on pourrait lui couper les mains. C'est quelque chose qui, j'explique d'ailleurs dans mon livre, que lors d'une conversation avec des femmes musulmanes qui n'étaient pas spécialement pratiquantes, elles ne trouvaient pas l'idée totalement absurde. Donc, on n'est pas exactement ni sur la même intensité, ni sur la même échelle, mais ça existe partout.
Oui, mais en fait, mon exemple était peut-être mauvais, mais je pourrais revenir juste à l'homosexualité où bon, dans l'Ancien Testament, c'est considéré comme mal. Et j'en parlais avec des amis qui sont très croyants, puis ils disaient... Je vais avoir des amis homosexuels, mais je considère qu'ils font le mal, puis ils vont peut-être aller en enfer. Donc, il y a quand même cette conception-là qui est très conservatrice. Et je me disais, en fait, la question que j'aurais envie de vous poser, c'est est-ce que vous ne croyez pas que chaque religion appliquée dans une façon très, très littéraire et très conservatrice et stricte peut représenter une menace pour une société?
Oui, bien sûr, mais elle est d'autant plus menaçante qu'elle veut gouverner elle-même. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs religions avec leurs croyances et leurs limites qui peuvent cohabiter, ça veut dire qu'elles ne sont pas si prosélytes que ça et qu'elles peuvent vivre elles-mêmes en communauté. Il y a certaines sociétés qui peuvent accepter cela. Le problème, c'est quand une ou plusieurs veulent imposer leur vue à tout le monde. C'est ça, à mon avis, qui conduit à la guerre.
Absolument. Puis les guerres, on en voit beaucoup. Et en fait, j'en ai parlé avec un très bon ami qui est musulman dernièrement, puis il me disait, mais il ne faut pas s'imaginer que ça ne sert pas quelqu'un, cette division-là. Est-ce que selon vous, avec les recherches que vous avez faites, est-ce qu'il y a quelqu'un des acteurs en arrière des frères musulmans à qui ça peut profiter, cette division-là, dans le monde?
Bien sûr, bien sûr. Alors, c'était un argument qu'on entend surtout à gauche en disant « mais ne vous intéressez pas aux frères musulmans, il faut s'intéresser à ceux qui les manipulent ».
Ouais. Bon,
c'est quand même bien mal les connaître. Hein. Je pense qu'ils sont assez forts à nous manipuler plutôt que l'inverse. Mais bien sûr, après, il y a le jeu politique, le jeu des alliances qui fait que vous allez fermer les yeux sur un certain nombre de choses que font vos alliés pour les avoir de votre côté pour obtenir le pouvoir. C'est un classique. Il y a aussi le diviser pour mieux régner qui existe, bien sûr. Mais je pense que si on ne fait pas attention à ce que ces groupes-là veulent et sont en train de mettre en place pour parvenir à leur objectif, nous dénonçons seulement ceux qui les manipulent et qu'on s'arrête là, on ne verra pas ce qui est en train de nous arriver, c'est-à-dire la perte de notre liberté d'expression, la division, le séparatisme et ce qui va disloquer nos sociétés. Donc, moi, je ne dis pas que ça n'existe pas, l'utilisation, la manipulation, etc. Je dis simplement que oui, d'accord, mais regardons ce que ces gens veulent. Et où est-ce qu'il nous mène et voir si nous sommes suffisamment armés pour défendre encore notre modèle.
Ben justement, je pense que ça terminerait bien cette discussion-là. Si, bon, vous avez parlé tantôt, à la fin de votre livre, vous avez des pistes de solutions parce que vous parlez d'être armés. Quelles sont les armes qu'on peut prendre pour faire face à ce que vous nommez comme une menace dans votre livre?
Bien sûr, ce sont des armes intellectuelles, c'est-à-dire que comprendre comment ça marche, qui sont les frères, ce qu'ils veulent, qui est influencé par les frères, puisque moi je parle du frérisme, c'est-à-dire de l'idéologie surtout produite par ces réseaux fréristes. Donc leur influence sur les simples musulmans, leur influence sur les non-musulmans, ces jeux d'alliance dont nous avons parlé. Donc déjà, s'armer intellectuellement, comprendre pour ne pas se laisser embarquer dans certaines voies qui finalement, à la fin, ne nous seront pas favorables si nous sommes des gens qui défendons la démocratie, les droits de l'homme, etc. Après, il y a des mesures concrètes qui, effectivement, l'interdiction des prêches qui sont qui sont séditieux. Bon, ça, je pense qu'il faut un pouvoir de police fort. Et puis, il y a un certain nombre de mesures qui visent à empêcher le conditionnement des enfants. L'islamisme conditionne les corps, pas seulement les esprits, mais aussi les corps. Et on sait que le conditionnement du corps agit beaucoup sur l'esprit et à très long terme. Par exemple, le voilement. À partir du moment où vous voilez une petite fille de 5 ans, vous êtes à peu près sûr qu'à 10 ans ou à 12 ans, elle ne pourra pas ne pas le mettre parce qu'elle se sentira nue, elle va comprendre ce que c'est que le problème de la pudeur, etc. Et ça va être impossible pour elle de ne pas le vêtir. Or, qui dit voile dit que vous le portez tout le temps, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, que dans n'importe quelle circonstance, c'est quelque chose qui est très... Moi, je vous incite à en faire l'expérience. Porter un voile pendant une journée, vous allez voir ce que c'est, ce que ça veut dire vraiment.
Est-ce que vous l'avez fait ?
Oui, oui, ça m'est arrivé. Oui. Si vous portez, par exemple, le jilbab, eh bien, vous ne pourrez pas... vous aurez qu'une envie au bout d'un certain temps, c'est de rester chez vous. Alors ça, je l'ai pas expérimenté moi-même assez longtemps, mais j'ai pu voir ce que ça pouvait être. Vous pouvez acheter un jilbab n'importe où à côté de chez vous, puis ben, portez-le et voyez comment ça. On a l'impression d'être harnaché. Enfin, voilà, il y a une proprioception aussi du corps qui est différente. Donc ce conditionnement, il faut l'empêcher dès le plus jeune âge. C'est pour ça que je suis très favorable pour moi à l'interdiction du voile des écoliers, mais c'est que dans le public en France. Le privé, on peut quand même revenir avec le voile, vous voyez. Donc moi, je pense qu'il faut l'interdire aux mineurs déjà. Ça, y a pas de... pour moi, c'est essentiel. Et après, bon, la personne est majeure, elle fait ce qu'elle veut. Donc ça, c'est important. La deuxième chose, et c'est même urgent, je dirais, pour pas des générations qui de femmes qui vont transmettre, parce que ce sont les femmes hein, qui transmettent la vision du religieux, c'est leur job, hein, c'est ce qu'on leur demande d'ailleurs. Et puis l'autre mesure que je trouve très importante, c'est soutenir les apostats, c'est-à-dire tous ceux qui prennent des distances avec l'islam tel qu'il est imposé. Ils peuvent d'ailleurs, il y a certains apostats qui sont restés musulmans dans leur tête, mais ils ont complètement rompu avec l'idée qu'il faille imposer ce dogme.
Oui, avec la doctrine, du moins.
Et avec l'idée du prosélytisme qui va avec. Une religion hyper prosélyte. Donc, il faut les défendre parce qu'ils sont attaqués. Il faut comprendre que les apostats ne peuvent pas dire qu'ils sont apostats. C'est quand même incroyable. Alors que vous avez à gauche des gens qui leur reprochent d'ailleurs de faire la publicité de leur apostasie, eux-mêmes ont apostasié sur deux générations. Vous avez une perte d'appartenance catholique considérable. Donc des apostats, c'est je dirais la majorité des Français.
En fait, juste pour préciser, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le mot apostasie, ça veut dire rompre carrément avec sa religion et s'en dissocier.
Avoir une distance, on peut avoir la culture, hein, mais oui. On n'est plus dans le culte, on estime que c'est pas qu'on a qu'on peut voir les choses autrement. Et bien quand il s'agit des musulmans qui disent moi je ne suis plus musulman, alors ça y est, on le leur reproche et ça les rend d'autant plus vulnérables vis-à-vis des islamistes prosélytes qui, eux, seraient prêts, conformément à leur texte, et ils le disent, à les sacrifier. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Si vous déclarez votre apostasie, vous êtes enfermé, voire tué.
Oui, parce qu'il y a des pays où ça peut mener à une peine de mort.
C'est ça.
Pas encore dans nos pays, du moins. Espérons qu'on ne se rendra pas jusque-là.
Vous dites ça, mais on a quand même observé ces derniers temps une multiplication des agressions de mauvais musulmans, des musulmans qui ne seraient pas correctement musulmans et qui sont agressés, voire tués. Vous avez des agressions d'enfants entre eux, ça s'est passé récemment cette année en France, où une jeune fille a été violemment agressée et tuée parce qu'elle n'était pas suffisamment bonne musulmane. Donc la religion devient, ou alors une petite fille aussi de confession juive qui a été tuée parce que elle était juive. Donc,
ça, elle a été tuée par d'autres enfants.
Voilà. Donc vous voyez la l'importance accordée à l'appartenance musulmane par des petits produits de l'islamisme, hein, puisque ça, les tueurs sont des petits produits du frérisme de l'islamisme, au point de tuer les autres.
Ouch, ouais, j'étais pas au courant pour cette histoire-là. C'est franchement, oui, c'est vrai que c'est alarmant. Mais merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Je vais continuer cette discussion-là prochainement avec Jack Lefou, que vous connaissez peut-être, qui vit au Québec. Pardon?
Je dis, c'est très bien ce qu'il fait.
Oui, c'est ça. Ben, puis lui, c'est un Algérien qui a apostasie, justement. Donc, on aura la parole de quelqu'un vraiment en première loge pour nous en parler. Je dis encore une fois, vos livres sont tous en vente au Québec. Donc, vous en avez trois, je pense, deux sur le halal et votre plus récent qui est Fréris, mais c'est Réseau.
J'en ai un peu plus, mais je conseille au public de lire les deux derniers, c'est-à-dire le marché halal ou l'invention d'une tradition et le frérisme et ses réseaux. Les autres sont un peu académiques, un petit peu.
OK, je comprends. Donc, ça donne quand même, ça adresse un bon portrait de ce que vous avez fait comme recherche. Merci encore pour votre temps. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à tout le monde d'avoir été là.
Merci, Marie.